Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
8h22, et oui, notre invitée, la grande historienne Mona Ouzouf, bonjour, merci d'être en notre compagnie. Vous publiez sous la direction d'Alain Finkielkraut pour rendre la vie plus légère les livres Les femmes, les manières, c'est chez Stock. Mona Ouzouf, une réaction par rapport à ce que Frédéric Saïs vient de dire sur le militantisme bretonnisant de vos parents ou bien votre militantisme
ancien
au CF. Oui, jusqu'en 56.
À peu près, oui. Non, c'est très intéressant. En l'écoutant, je me demandais si la cause profonde de ce trouble dans l'identité politique n'était pas la disparition du clivage gauche-droite, qui était quand même bien commode pour interpréter la vie politique. Parce que avec le clivage gauche-droite, on pouvait à la fois avoir une gauche de la gauche, une droite de la gauche, etc., etc. C'est-à-dire que ça permettait une manière d'assurance. C'est ma première réaction, c'est est-ce que c'est ça? Mais en vous écoutant, je pensais aussi à une phrase dont malheureusement j'ai oublié l'auteur au XIXe siècle et qui montre que peut-être le trouble est plus ancien, puisque cette phrase disait à peu près « Un républicain de gauche » est un homme du centre que le malheur des temps oblige à siéger à droite. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y avait une interrogation et une sorte de porosité entre les familles politiques. En tout cas, beaucoup d'amis de ma génération, anciens militants, très anciens militants aussi, disent que désormais ils sont spectateurs. Ce qui dit quand même beaucoup.
Vous diriez de vous que vous êtes spectatrice, Mona Ouzouf ?
Je suis un peu spectatrice inquiète.
Qu'est-ce qui vous rend inquiète ?
Oh, ce qui m'en rend terriblement inquiète, c'est que je pense que nous ne pourrons relever les immenses défis, écologiques par exemple, qu'au prix de la contrainte. Et je ne suis pas sûre que nous soyons prêts à payer le prix de la contrainte. Et je pense que tout ça nous emmène grand train vers un régime autoritaire qui ne me séduit pas tout à fait.
En dehors de l'écologie, est-ce qu'il y aurait d'autres craintes d'un glissement vers un régime autoritaire, puisque beaucoup de commentateurs aujourd'hui redoutent ce type de phénomène?
Oui, c'est. Je pourrais. Il y a évidemment beaucoup de facteurs. De toute manière, il y a une demande générale d'autorité. Ça se voit dans mille domaines. Demande d'autorité à l'école, par exemple. Si nos enfants ne savent plus lire, dit-on, c'est parce que il manque aux adultes une confiance dans ce qu'ils enseignent et une autorité suffisante. Voilà.
Et ne pas savoir lire, c'est un vrai malheur, puisque ce que vous expliquez dans cet ouvrage qui paraît ces jours-ci pour rendre la vie plus légère, Mona Ouzouf, c'est que la littérature a joué un rôle immense, joue un rôle immense dans votre vie.
Oui, parce que c'était la seule ressource dans mon enfance. J'étais fille unique, ma mère s'était ensevelie dans le chagrin après la mort de mon père quand j'avais 4 ans, avait fait venir chez elle sa mère en coiffe bretonne et parlant breton, qui très vite a pris les rênes de la famille, et nous a élevés, ma mère et moi, comme deux filles, et avec elle, une extrême autorité. Donc, c'était une vie très, très austère, et qui n'était sauvée, au fond, que par les livres. Parce que j'ai le souvenir de ces jeudis et de ces dimanches qui paraissaient interminables, cette cour d'école, puisque nous habitions l'école, déserte devant moi, et une perspective, au fond, assez tristounette. Mais il y avait les livres, il y avait 3 bibliothèques à la maison, et puiser dans ces bibliothèques a été, oui, la ressource.
3 bibliothèques, c'est-à-dire ?
La bibliothèque de mon père, qui était uniquement consacrée pas uniquement, mais enfin consacrée à la Bretagne, dans tous ses aspects, patrimoine, folklore, langue, vocabulaire, etc. Et puis aussi quelques incursions dans chez nos cousins d'outre-Manche, littérature irlandaise et galloise, ça, il y avait des choses de ce genre, dans la bibliothèque de mon père. La bibliothèque de ma mère était une bibliothèque plus axée sur l'actualité d'une certaine façon, les nouveautés, mais aussi la littérature anglo-saxonne et russe. Ça, c'était l'héritage d'un de ses anciens professeurs. Et puis la mienne, avec les livres canoniques qu'on donnait à lire aux enfants à l'époque, La Comtesse inévitable avec ses malheurs de Sophie, etc. Voilà.
Et quels sont justement les livres qui vous ont construite, Mona Ozouf ? Vous avez dit que la littérature faisait entrer l'histoire dans le concret des vies, qu'elle faisait descendre le politique dans le domestique. Vous avez dit, c'est ce que j'aime dans les romans. Quels sont les romans qui vous ont permis de faire entrer l'histoire dans le concret des vies ?
Écoutez, alors ça dépend de quelle époque de ma vie, mais en gros, les livres, je crois que j'ai un faible pour la littérature de langue anglaise. Une de mes passions a été James. Je lis moins Henry James maintenant parce que j'ai un peu une overdose, mais j'ai consacré quand même un livre à James et un autre livre à George Eliot. Et je crois que, effectivement, il y a chez les romanciers, et plus particulièrement peut-être chez les romancières anglaises, un sens du concret, du détail, de la saveur, de la couleur, du grain des choses. Il y a ça chez les romancières, ce sens du concret qui me paraît être ce qui reste encore de féminin aujourd'hui dans l'existence féminine.
Le féminin, justement, est-ce qu'une écriture féminine, est-ce que ça existe pour vous, Mona Ozouf ?
J'ai quelques difficultés avec cette histoire d'écriture féminine parce qu'elle est souvent prise comme un genre mineur, sur un mode mineur, et qu'on dit souvent que les femmes sont douées pour des genres intimistes, pour la confidence, pour l'autobiographie. Et je résiste un peu à cette idée parce que c'est évidemment confiné les femmes au ghetto et l'écriture féminine, voilà, des genres un peu roses, comme si les femmes ne pouvaient tremper leurs plumes que dans une encre rose. Donc j'ai un peu de mal. Et cependant, je pense qu'il y a, alors je pense qu'il n'y a pas de sujet assigné à l'écriture féminine, et il y en a quelques exemples dans la littérature où les femmes décrivent un monde aussi féroce et aussi cruel que les hommes. Cela étant, il y a quand même quelque chose de féminin, je crois, reste dans l'écriture féminine quelque chose de féminin, et ce quelque chose de féminin, c'est ça, c'est le sens du concret qui adoucit la vie. Vous savez, il y a un exemple que je trouve magnifique, qui est un roman de Françoise Chandernagor sur la captivité du petit Louis XVII au Temple. Mmh. Et elle montre que le malheureux petit garçon n'est pas l'objet d'une cruauté systématique de la part de ses geôliers, mais qu'il est la victime de l'abstraction républicaine ou révolutionnaire. Les hommes qui s'occupent de lui, enfin les geôliers, par exemple, murent un des côtés de la chambre où il se tient, et de l'autre côté, il y a tous ses jouets. On a laissé tous ses jouets. On l'a privé de son nom. On ne l'appelle plus, par exemple, que le dépôt national ou l'otage national. Enfin, bref, dans la langue de bois de la Révolution. Et les seules personnes qui manifestent un peu de compassion pour lui, c'est Marie-Jeanne, la femme du geôlier, qui, à défaut de consoler le petit garçon, a au moins le sens de ce qui lui manque, concrètement, lui apporte une couverture, lui donne son vermifuge, etc. Et puis il y a un autre personnage totalement lumineux, la blanchisseuse qui s'occupe du linge de la famille du temple, qui comprend à la raréfaction du linge que le père est mort, il a été décapité, qu'ensuite que la mère et la tante ont subi le même sort. Enfin, elle ne sait pas pour la guillotine, mais elle voit qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus d'adulte, il n'y a plus que le linge du petit garçon, qui lui aussi s'effiloche, qui devient de moins en moins raffiné. Elle pressent la tragédie et elle est de tout cœur par le biais du matériel, du linge. Là, je crois qu'il y a quelque chose dans ce livre est absolument magnifique, je trouve. Il fait comprendre le péché de l'abstraction et en quoi le sens du concret préserve chez les femmes une sorte de sens de l'autre et de compassion.
Mais justement, la critique de la Révolution française comme étant l'amour de l'abstraction, on trouve ça chez Burke, par exemple, oui. Ça fait partie des critiques traditionnelles. Alors vous qui dites aimer le concret, la littérature parce que l'on aime le concret, Mona Ozouf, est-ce que vous trouvez que cette critique de la Révolution française, elle est justifiée?
Je crois que, oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer la grande controverse fondatrice qui est celle de Burke et de Paine. Burke soutient l'idée que, en dépouillant l'homme de ses, et la femme, les êtres humains, de leur coquille protectrice, c'est-à-dire de leurs vêtements, de leur parure, de leur manière d'être, de civilité, etc., en les dépouillant de tout cela, en ne les voyant que comme des êtres dépourvu de qualité, de dénuement. Ce qui est l'idée des révolutionnaires, c'est que nous n'avons pas de droit en fonction de nos qualités personnelles, mais du simple fait que nous sommes des êtres humains. Autrement dit, d'ailleurs c'est une idée très, très forte, parce que si nous devions nos droits à des qualités quelconques, je ne sais pas moi, fortune, naissance, talent, beauté, etc., etc., ces droits n'auraient plus aucune force émancipatrice. C'est parce que les droits sont attribués à chaque être humain dans sa nudité élémentaire que ces droits nous émancipent et nous libèrent. Donc, Burke est tout à fait à contre-courant de cette idée révolutionnaire, parce que pour lui, les êtres valent par précisément leur qualité, le décor qui les entoure, etc. Et on peut que donner raison, d'une certaine manière, à Burke, parce que quand on a dépouillé l'homme de toutes ses qualités, de tous ses hochets, comme disent les révolutionnaires, on a un individu complètement démuni, et au fond, les camps de concentration nous ont donné l'image la plus exacte et la plus terrible de cet homme dénué de tout. Donc, il y a là quelque chose quand même qui fait réfléchir sur le propos des révolutionnaires et de Paine. Et Paine s'oppose à Burke en disant que quand on accepte la théorie de Burke, on accepte que les morts aient beaucoup de droits sur les vivants. Et presque tous les droits sur les vivants, nous sommes obligés de porter l'héritage que nous ont donné nos ancêtres, et il faut pouvoir, dit Paine, s'émanciper et se désaffilier. Il faut pouvoir ne pas subir le gouvernement des morts. Ben, écoutez, les deux affirmations ont quelque chose de séduisant. Celle de Paine décrit une sorte de départ matinal dans l'existence, et ça convient à un jeune homme. Et je suis sûre que dans le choix pour moi de la Révolution française comme objet d'étude, il y a eu ça. Il y a eu ce côté juvénile où on croit pouvoir tout inventer de sa vie. C'est-à-dire réduire complètement, peut-être pas complètement, mais réduire au maximum la part reçue de nos existences pour s'auto-fonder, pour inventer la part choisie. Et il faut bien admettre que plus on vieillit, plus on se rend compte que la part choisie a tellement compté, que l'héritage a tellement compté que parfois il a l'air de menacer la liberté.
Mais alors, justement, parce que dans ces grands récits qui étaient jadis des grands récits mobilisateurs, on parlait tout à l'heure de l'engagement, vous évoquiez vos craintes de l'avènement d'un pouvoir autoritaire, eh bien, il y avait une manière d'englober l'individu dans un collectif. C'est aujourd'hui ce qui semble faire défaut. Est-ce que ça, c'est l'un des péchés originels de la Révolution française en privilégiant une dimension abstraite de l'individu, Mona Ouzouf ?
Je ne comprends pas très bien votre question parce que la Révolution n'a pas ignoré le collectif. Mais très vite, ce collectif qui se voulait au départ universel s'est fractionné. La faction et la fraction ont eu raison du rêve d'entrer dans la Révolution, qui était un rêve universel et qui est quand même d'une grande beauté et d'une grande noblesse. Se mettre à légiférer comme font les délégués des États généraux qui arrivent à Versailles et qui se transforment en Assemblée nationale, se mettre à légiférer non pas pour les Français, mais pour l'humanité en général. Ce n'est pas les droits des Français qui réclament, c'est les droits de l'homme. En général, ça a quand même une grande noblesse. Le problème est effectivement la retombée dans la politique concrète, réelle, enfin, de ses aspirations.
On a beaucoup parlé de révolution ces derniers temps en France, on en a parlé avec les Gilets jaunes, on a parlé de mentalité insurrectionnelle. Qu'en pensez-vous, Mona Ouzouf ?
Bon, on m'a posé la question 20 fois de savoir si les Gilets jaunes annonçaient une révolution. J'ai beaucoup de mal à entrer dans cette vision pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Révolution française invente l'idée de représentation. Les délégués des États généraux qui arrivent à Versailles avec dans la poche des revendications qui sont quasiment paroissiales. Bon, un droit de colombier ici, un chemin vicinal à ouvrir là, etc. Oublient, enfin, rompent avec l'idée de transmettre à Paris ces revendications locales. À partir du moment où ils sont Assemblée nationale, ils sont représentants de la nation tout entière et pas de leur petit pays, pas du local, pas de la périphérie, comme on dirait aujourd'hui. Donc, la première grande différence, c'est que les Gilets jaunes ne supportent pas l'idée de représentation. Tout représentant est un traître, par définition. Tandis que la Révolution française accouche d'un régime représentatif et croit à la représentation et abandonne le mandat impératif des délégués. Donc il y a cette première différence. Et puis la seconde différence, peut-être encore plus massive que celle-ci, c'est le fait que ce sont les Gilets jaunes sont des gens sans espérance, sans dans la tête le dessin d'un monde meilleur. Alors que en 89, c'est aussi la gloire de 89, c'est que les hommes qui entrent en révolution ont dans l'esprit un remaniement complet de l'existence. Alors certains de ces remaniements marchent et sont encore aujourd'hui valables. Enfin, je sais pas, par exemple, le découpage de l'espace a duré. Nous avons encore les départements, etc. En revanche, ils ont échoué avec le découpage du temps, parce que le calendrier révolutionnaire n'a duré que l'espace, j'allais dire d'un matin, mais quand même, c'est jusqu'à l'an 13, ce qui n'est pas rien, mais voilà, ça n'a pas persisté. Mais en tout cas, ils avaient en tête des images utopiques très, très fortes et très porteuses, avec beaucoup d'espérance, qui a déserté les ronds-points.
Vous avez dit, Mona Ouzouf, que le 19e siècle était un siècle radoteur. qui n'en finit plus, je vous cite, de rejouer des scènes anciennes. Est-ce que vous avez la sensation que l'histoire a fini de radoter aujourd'hui, qu'on est face à des formes inédites, ou bien au contraire, que l'on est encore une fois en train de rejouer, parfois sans le savoir, des scènes anciennes ?
Oui, c'est moins visible parce que nous vivons toujours en République, alors que le 19e siècle est sous la malédiction du chiffre 2 ou du chiffre 3. Il y a deux monarchies, l'une restaurée et l'autre frottée de révolution, puisqu'elle porte le nom d'une révolution, la monarchie de Juillet. Et puis, il y a donc deux empires, un empire second choix, et puis il y a trois républiques, et c'est celle-là qui gagne, et qui est encore la nôtre aujourd'hui. Donc, ce qui nous cache le radotage possible de nos existences politiques, c'est le fait que malgré tout, la République est devenue pérenne, ce qui n'est pas sans... Voilà.
La République est devenue pérenne incontestablement, mais ce mi-temps du 19e siècle, qui a été un siècle avec de nombreuses émeutes, avec des scènes de rue, alors avec aussi une réflexion constitutionnelle qui a abouti effectivement au Second Empire, est-ce que là, il y a des points communs avec cette période que l'on semble trouver bien nerveuse en France aujourd'hui, Mona Ozouf ?
Oui, mais... cette nervosité est presque individualisée, c'est-à-dire que chacun est devenu l'ennemi du voisin. Il n'y a pas de coagulation, il me semble, pour le moment, c'est possible. Vous avez peut-être raison. Les historiens ont un grand mal à prévoir ce qui va arriver. Ça se saurait si les historiens pouvaient prédire. En revanche, c'est probablement ce qui leur est le plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait connaissance en travaillant sur l'histoire, avec l'intempestif. Ils savent qu'il y a toujours des surprises.
Mais en évoquant par exemple les grands hommes, alors au 19e, le grand homme c'était Napoléon. Aujourd'hui, je ne sais pas, ce pourrait être par exemple De Gaulle. Vous qui, dans Pour rendre la vie plus légère, évoquez justement ces grands hommes et la manière dont on les fait vivre ou on les oublie, Mona Ozouf. Qu'est-ce que l'on pourrait dire pour aujourd'hui ?
Sur les grands hommes ?
La manière dont ceux-ci ont en partie déserté, en tout cas en apparence, la manière dont nous voyons aujourd'hui la politique, dont on voit les grandes idées.
Oui, oui, probablement nous avons un peu renoncé à l'idée de grandeur, probablement. Malgré tout, je pense qu'il y a quelque chose qui fait toujours quand même l'unanimité, qui peut réunir. Qu'est-ce qui peut réunir des gens aujourd'hui ? Je crois que c'est la simple idée du courage. On chicane son estime aux politiques en général et à quantité de gens, mais on ne chicane pas l'estime à quelqu'un qui sauve un enfant de la noyade ou de l'incendie. C'est encore cette notion-là qui est capable de nous fédérer, il me semble.